Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 165. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Et cette semaine, nous avons un invité avec nous, Benjamin Beltier. Bonjour.
Hey, bonjour. Content d'être là.
Benjamin, t'es qui, toi, Benjamin, là?
Moi, j'étais un gars là qui passait dans le coin puis qui s'est arrêté. Non, non, moi, j'écris pour Point de vue depuis un certain temps, mais je fais pas partie de la gang du podcast, là. Fait que je vais venir ici parler du FNC avec vous autres, I guess.
C'est ça que je pense.
On est très content que tu sois là, Benjamin, avec nous pour offrir tes opinions tranchantes sur les films. On a bien hâte de voir ça.
C'est vraiment le fun parce que Benjamin, moi, je veux faire une mutinerie en partant. Benjamin, il en fait un peu partie, là. Puis en fait, c'est une histoire qu'on n'a pas réglée au dernier podcast. Puis là, j'ai vraiment envie juste qu'on accroche ça 2 minutes. On n'a pas beaucoup de temps.
Alors, si je sais de quoi tu parles.
Mais en gros, ça commence avec une anecdote, OK? On a parlé au dernier podcast. Notre très cher Paul Landriau s'est marié. Ce mariage se passait à un chalet à Mont-Tremblant. Un gros chalet où il y avait, à mon grand bonheur, une télé cathodique avec des piles de VHS.
OK, oui.
Je vais mettre quelque chose en background, là, tu sais, comme pas de son. Puis là, je fouille dans les cassettes, puis je tombe sur le film Torque. Qui est comme, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un peu un mélange entre Fast and Furious et Crank. C'est comme y a des combats d'épées là-dedans, mais remplace les épées par des motos, là. C'est vraiment insane comme affaire. Là, j'ai mis ça en sourdine. Il y a Pascal Plante qui est allé s'asseoir devant au début du film et qui l'a écouté en entier, en version muette. Il m'a dit après, l'expérience muette est vraiment hallucinante. le deuxième soir, on est en train de boire un peu sa terrasse et tout. Puis là, je check par la fenêtre et je vois Pascal qui fait une VHS puis il remet Torque, il s'assoit devant, il le rit. En entier, là. Ça, on est comme dans un party, là, un événement social.
Un double Torque.
Parler. Puis genre, Pascal, il a écouté 2 fois Torque en VHS, en sourdine, les 2 fois.
Moi, je l'ai écouté avec la 2e fois, puis c'était une très belle expérience, pour vrai.
Mais no regrets, là, Torque. Écoute, Torque. Non, mais... Ben, d'ailleurs, un peu, Torque, c'est quoi, hein? C'est un film de 2004. C'est un film, je pense, qui a gagné un certain statut culte, là. En même temps, Rémi, t'es assez bien placé pour en parler, mais juste, c'est qui Joseph Kahn, OK? Je pense, si vous connaissez pas nécessairement ses films, c'est sûr et certain, OK? Tu sais, le gars, là, c'était vraiment l'espèce de golden boy de l'âge d'or de Musique Plus. Quand je dis l'âge d'or de Musique Plus, OK, je parle pas des années de Thriller de Michael Jackson, là. Je parle de mon âge d'or à moi. Fin des années 90, début des années 2000, quand je revenais de l'école, je regardais le top 5 anglo Musique Plus, tu sais. Puis là, il y avait le clip des Backstreet Boys, de genre Everybody, puis ces affaires-là. Puis ça, c'est Joseph Kahn. Ou genre Toxic Britney Spears, ça, c'est Joseph Kahn aussi. En tout cas, il y en a. Je veux dire, toutes les pop stars, là, comme je disais, de. Pré-Torque, là, I guess, là. Donc,
ben, juste qu'à aujourd'hui, parce qu'il en fait encore beaucoup, c'est vraiment le réalisateur attitré de Taylor Swift aussi.
Ouais,
donc,
c'est ça.
Il est encore très actif dans le milieu.
Ouais, mais ben, son film Detention, il paraît que c'est supposé être bon. Puis il y a un film qui sort cette année, non? Un film de hip-hop, me semble, qui paraît qu'il est quand même bien. J'oublie le titre, là, excuse, là, mais. C'est pas un nobody, ce gars-là, tu sais, c'est ça l'affaire, là.
Non, c'est ça.
Detention, moi, je l'avais vu à Fantasia, là. C'est vraiment un mess scénaristique, mais tu sais. Torque aussi, là. Fait que, c'est un peu le contrepartie des films de slasher, films fantastiques Torque, là.
Rémi, Torque, il n'y a pas de dialogue.
Oui, c'est
ça. Non.
Sérieux, non, mais c'est quand on dit que ça marche comme un film muet, c'est vrai, là. Genre, c'est tous les plans, l'utilisation des motos, du cuir, genre de. Écoute, c'est vraiment un film muet, honnêtement.
Ben, c'est ça. Tu sais, pis c'est un film qui est court, il dure quoi, 80 minutes, genre, quelque chose comme ça, tu sais. Pis, regarde, je suis sur la page IMDb, 4.0 sur 10 sur IMDb, 1h24, 41 de Metascore. Tu sais, c'est vraiment comme, il est bien, c'est bon, là, tu sais, c'est bon. Et, en gros, c'est ça, mais l'acteur principal, si je peux juste me permettre, là, c'est quoi son nom, donc, Martin Henderson, c'est ça?
Yes.
Il y a zéro charisme, là. C'est vraiment comme un genre de personnage complet, un canevas blanc. On se projette en lui. Il fait de la vitesse, il est cool, il hook up avec les chicks, puis tu sais, c'est à peu près ça. Fait que c'est comme, ça donne de l'espoir à l'adolescent prépubère, là, avec plein d'hormones en soi, peut-être, tu sais. Puis, à l'inverse, il y a Ice Cube. Ice Cube qui a 2 faces, la face fâchée, puis la face encore plus fâchée, tu sais. Puis en gros, c'est ça, c'est des gangs de motards rivaux. Mais là, il y a comme un autre méchant, plus méchant. Fait que là, Mané, il commence à genre... Ice Cube devient, I guess, le genre d'allié improbable. Ah, puis il y a une fille dans le décor, puis Mané, elle se bat contre la méchante fille. Fait qu'il y a un catfight vraiment ridicule en fin de film où ils se battent avec des motos. Donc, ils font des wheelies de motos, puis comme une bataille à l'épée, là, mais genre avec des motos.
C'est vraiment comme l'intro de Mission Impossible 2 avec de John Woo, avec Tom Cruise, là, puis il y a une séquence à moto qui n'a pas de bon sens. Hein. Mais ça, pendant genre 1h20. Là.
Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça.
Carrément.
Mais ce qui est drôle, en fait, puis pourquoi ça vaut quand même la peine, c'est que, tu sais, il y a vraiment une aversion de la répétition au niveau visuel. Fait que, tu sais, c'est comme, il n'y a jamais un genre de champ contre champ. En fait, il n'y a jamais un plan qui est en soi... ben, plate à regarder, ou tu sais, il y a toujours. Mais tu sais, même que ça en devient vraiment TDAH, tu sais, je veux dire.
C'est un aspect clippé, tu sais, genre dans le sens.
Exact.
Que, c'est ça, même des scènes où il se passe. C'est un peu l'effet Michael Bay, même des scènes où il se passe rien, c'est là qu'ils vont mettre encore plus le paquet visuellement, justement, pour pas qu'il se passe rien, tu sais.
C'est ça, fait que ça crée un genre de délire, tu sais. Finalement, le film fonctionne comme un délire, tu sais. Étrangement. Mais tu sais, je veux dire. Bon, Rémi, que dire de plus sur Thorgrim?
Moi, c'est juste, je trouve ça malade parce que. Cette année, t'as vu plus de fois Thor que The Florida Project, mettons.
Ah, ouais, c'est vrai.
C'est quand même un film.
C'est vrai.
En tout cas, j'ai jamais écouté Thor en VF 4.3 Panenscan VHS sur une grosse télé muet dans un chalet,
ouais,
sauf deux fois au chalet.
Deux fois au chalet. Bon, ben, c'est ça.
Ça, c'est réglé. Je suis content, c'est fait. Regardez Thor, tout le monde, come on, là.
Ouais.
Ça, c'est réglé. Ouais. On a un gros podcast. Sinon, Pascal, tu nous reviens de VIF, Vancouver ouais. International Film Festival, où ouais. il y avait la première mondiale du film Les Faux Tatouages,
ben
ton
oui.
premier long-métrage de fiction,
ben oui.
qui jouera ce soir, à l'heure où on enregistre au FNC,
ouais.
également le 11 octobre.
Ouais, fait que là, probablement, le podcast ouais. risque d'être en ligne, probablement, donc là, on est lundi, probablement mardi. Donc, je vous mousse peut-être la deuxième représentation. Ça va être mercredi le 11 à 16h. Venez voir ça. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le partager. Puis sinon, juste un mot très, très, très rapide sur Vancouver, en fait. T'sais, c'est un festival avec beaucoup de films qui durent longtemps. Donc, tu sais, un programme très chargé, plein de films high profile, un peu. Beaucoup de tu sais, il y a le Big Bang de TIFF un peu qui saigne jusqu'à Vancouver et jusqu'au FNC, un peu partout. Donc, tu sais, c'est un petit peu... Il y a certains films qui se recoupaient carrément aux trois festivals. Juste mentionner, parce que vraiment, je pense qu'on veut faire un plus FNC-FNC, puis je ne crois pas qu'il joue au FNC, mais je pourrais me méprendre. Mais gros coup de cœur pour Visage Village d'Agnès Varda. Gros coup de cœur, un film plein d'humanité, plein d'humour. Juste très rapidement, là, le concept du film, c'est... Donc la rencontre un peu improbable entre le photographe JR et Agnès Varda, donc Agnès Varda qu'on présente plus, je veux dire, c'est la demoiselle d'honneur de la nouvelle vague française, mais je veux dire, elle a quand même, évidemment, c'est quand même beaucoup plus que ça, ce serait probablement réducteur de parler de Varda simplement comme ça. Et en fait, depuis les années 2000, un peu comme une Herzog au féminin, peut-être, dans un sens, des beaucoup de documentaires un peu... atypique, très personnel, avec de l'humour, elle se met en scène, tout ça, elle a fait plein de beaux films, Les plages d'Agnès, Le glaneur et la glaneuse, notamment. Mais moi, je le dirais, d'entrée de jeu, en fait, j'ai quasiment l'impression que c'est peut-être même mon favori de ces essais documentaires un peu drôles, rythmés, touchants, humains. Et surtout que Varda, là, maintenant, elle a quand même 80... Elle avait 88 ans au moment du tournage, elle est à 89 ans maintenant. Encore un film plein de vigueur, puis très très touchant. Je sais pas si toi, Benjamin, t'as un petit mot à dire. Moi, c'est un gros coup de cœur.
Un petit mot sur Varda. La comparaison avec Herzog est vraiment intéressante parce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a commencé à faire du cinéma en temps de la nouvelle vague. Mm-hmm. Je veux dire, elle a fait tellement de types de films différents. Puis là, je veux dire, à cet âge-là, elle est encore en train de faire des trucs qui sont presque radicaux comparé à beaucoup de documentaires qu'on peut voir aujourd'hui.
Ouais. Non, mais c'est sûr qu'elle parle aussi ça, c'est qu'elle se place au centre de son cinéma et elle a vraiment, c'est ça, une fougue un peu qu'elle caractérise, puis c'est pas pour rien que, tu sais, qu'elle s'allie avec JR dans ce film-là.
Mm-hmm.
Tu sais, un jeune cinéaste, tu sais, elle a ce côté-là justement là, d'être un peu comme, je sais pas, Herzog, qui encore, toute la naïveté, puis tu sais, je dis ça très positivement, tu sais, il y a encore qui croit vraiment au médium.
Ouais, c'est encore son processus de découverte encore pour elle à 88 ans, tu sais,
c'est ça. Ouais. Puis c'est beau à voir, c'est contagieux, puis c'est ça, ça la cristallise aussi, on dirait qu'elle avait pas besoin de faire des documentaires où elle se met en scène pour comment dire, tu sais, cristalliser un peu son impact dans l'histoire du cinéma, puis globalement, mais on dirait que ça la mythifie davantage, finalement, d'avoir toutes ces petits ovnis documentaires-là où elle est toujours un peu, c'est ça, positionnée au centre. Et Visage Village, tu sais, procédons, là, parce qu'on a, comme je disais, on a un gros programme, mais vraiment un gros coup de cœur pour moi. Attrapez-le quand il va sortir commercialement. J'imagine qu'il va sortir avant la fin. J'ai pas la date devant moi, mais j'imagine que ça va être relativement bien distribué. Donc, ouais, vous l'attraperez quand vous pourrez.
Sinon, c'est ça, on prend tous part en ce moment au 46e Festival du Nouveau Cinéma qui a débuté le 4 octobre avec la représentation au Théâtre Maisonneuve de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Mm-hmm. C'est un bel add-on, en fait, c'est pas toutes les années qu'on peut avoir un gros blockbuster comme ça qui est quand même accessible et attendu, réalisé par un Québécois, donc c'est vraiment comme l'espèce de film d'ouverture parfait, finalement. Mm-hmm. J'ai l'impression, pour attirer les gens, pour attirer le public, pour faire parler du FNC. Et donc, qui se poursuit jusqu'au 15 octobre. On va y aller quand même assez rapidement sur les films, parce qu'il y en a tellement qu'on a vu, il y en a tellement qu'on a aimé. Plusieurs déceptions aussi, j'imagine. Mais avant de parler des films, j'aimerais ça qu'on fasse un petit tour d'horizon et que vous me donnez un peu votre impression sur le festival en tant que tel cette année. L'ambiance, s'il y a des trucs qui vous ont sauté aux yeux par rapport à d'autres années, des spécificités du millésime 2017. Peut-être toi, Benjamin, pour commencer, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué cette année jusqu'à présent?
En termes de festival en son ensemble, tu veux dire? Ben en fait, j'y participe peut-être un peu moins qu'à d'autres années. Exemple, je pense à deux ans où j'avais la passe, puis j'étais vraiment dedans pas mal tous les jours. Là, c'est un peu plus, j'ai fait une sélection un peu plus concise des films. Mais sinon, pour moi, c'est toujours un plaisir à chaque année, je veux dire, voir des films à l'impérial. Je veux dire, tu sais, voir plusieurs films par jour. C'est vraiment le festival de l'année où je m'investis. Je sais que Rémi, c'est vraiment Fantasia, par exemple. Là, lui, il est vraiment... Pas touriste, là, pour dire, mais je veux dire, je sais que c'est pas tant son élément d'habitude. Mm-hmm. Mais sinon, pour moi, j'ai jamais vraiment de critique à faire. Là. Pour moi, c'est pas mal tout le temps une belle expérience. Puis...
C'est fou parce qu'à chaque jour, c'est ça, t'as le FNC qui publie sur Facebook une espèce de mosaïque avec les films du jour. Puis tu sais, je regardais ça aujourd'hui, puis c'est comme, man, une simple journée du FNC pourrait faire un festival satisfaisant. Il y a comme tellement de films à voir à chaque jour que j'ai le goût de découvrir.
Ce qui est cool aussi, c'est que l'autre jour, je veux dire, on est sur Bleury, puis on est en une file qui fait un bloc et demi dehors du Impérial pour un film, tu sais, je veux dire, c'est, tu sais, on va se le dire, Montréal, c'est, on a nos critiques en tant que, tu sais, c'est pas comparé à Paris ou à New York, mettons, tu sais, c'est pas une ville de cinéma, tu sais, en termes de venues, de places où tu peux aller voir des films, mais là, genre, quand t'es en festival, puis tu vois toutes les foules qui se déplacent pour aller voir des films, c'est, tu sais, ça fait chaud au cœur, là, pour un cinéma.
Ouais, parce que autant Montréal n'est peut-être pas cinéphile à l'année, autant je trouve qu'on a tellement de belles cultures de festivals, puis on a tellement de plusieurs beaux festivals.
Ben oui, absolument. Absolument, ouais. Tu vois que ça ressort quand ça se passe, tu sais.
Ouais, puis dans à peine un mois, c'est ça, c'est la RIDM, puis il y a sûrement comme plein de gros morceaux que je vais avoir envie de voir. Ouais, j'ai déjà eu quelques films d'annoncés. Donc, non, ça, c'est vraiment bien pour Montréal.
Mais, nouveauté cette année, en fait, c'est que Rémi, comme le cabaret Kino n'est pas en même temps, toi, c'est un peu, finalement... Ben, tu sais, évidemment, tu baignais dans le FNC, mais c'est un peu une première que tu vas voir plus de films.
Ah, ben, ouais. Ça, je veux prendre Benjamin parce qu'en fait, c'est pas que je suis pas dans mon élément parce que finalement, les films du FNC, j'y rattrape tout le temps en décembre.
Ouais, je suis un peu en joke, là.
Mais faut que j'ai download, faut que j'aille sur iTunes, faut que je les trouve.
Ouais, ou des fois, ils sortent en piquant, là, mon rattrapage. Genre, l'hiver de l'année d'après, puis tout, là, ça prend des fois
ça. Puis c'est vraiment, en fait, c'est vraiment à cause de Kino parce que j'étais dans l'organisation. Moi, l'année passée, c'était ma dernière année dans l'équipe, puis en plus, cette année, j'aurais probablement pas fait le cabaret parce que je suis super occupé, mais le cabaret est reporté, donc là, je me retrouve avec. Ben, tu sais, j'ai de la job, là, mais je me retrouve avec des soirs libres où je peux aller voir des films. Enfin, je me suis. Je suis allé en bon public, là. Tu sais, à Fantasia, j'ai ma passe et tout, mais là, je me suis acheté deux liasses de billets, là. J'ai mis un 120$ de films cette année.
Oh, yeah.
Tu sais, je la totale, là. Genre, pour une fois, là, que je peux y aller, là, j'en profite. Puis, tu sais, à date, moi, j'ai un 4 sur 4, là. Les 4 films que j'ai vus, j'ai fucking adoré, là. Ça part super bien, puis j'ai des belles attentes pour les prochains jours aussi, là. J'ai fait une sélection de Il y a 8 films que j'ai pris, que c'était des recommandations, puis j'étais plus certain. Puis il y a deux Shot in the Dark que j'ai pris en lisant les synopsis. Fait que c'est un peu de là-dessus que je me suis lancé. Mais ouais, sur quatre, ça va bien. Là, on va en parler tantôt là, des. Puis sinon, c'est sûr que tu l'ambiance du festival, voir des films à l'impérial, c'est.
Ouais, tout le temps, ouais.
Irremplaçable comme feeling, là.
Mm-hmm. Ah ben cool, c'est ça. Moi, juste, tu sais, moi j'y vais presque à chaque année, quand même beaucoup, là. C'est assez, c'est un peu plus, c'est ça, peut-être mon festival, entre très gros guillemets. Puis je t'allais voir quand même, depuis le début, des paroles de programmes de short. Je pense qu'il y a une nouveauté notable avec les courts-métrages. Ils font vraiment un parti pris plus court. Les programmes sont 75 minutes, puis ça, je salue ça. Comme je dis tout le temps un peu à la blague, il y a personne qui va sortir d'un programme de short de 1h15 puis qui va dire « Ah, me semble que j'en ai pas eu pour mon argent, j'aurais tellement pris un court-métrage de plus. » Tu sais ce que je veux dire, c'est que 75 minutes de court-métrage, c'est vraiment amplement suffisant parce que, tu sais, il y a une fatigue un peu dans comment les programmes sont faits, tu sais, juste à la base, court-métrage après court-métrage après court-métrage, tu sais, rembarquer dans un univers, redonner une chance au coureur, resetter son cerveau, puis comme réadhérer à un univers complètement différent à chaque fois, tu sais, il y a quand même un certain effort de la part du spectateur. Ça peut être, parce que, tu sais, je compare avec Tiff, à Tiff, il y a un programme qui durait 2 heures, pour vrai, le dernier film, là, tu sais, en plus, ironiquement,
dans ce moment,
c'est ça. Puis ironiquement, c'était peut-être mon favori du lot, mais genre, il est venu me chercher d'entre les morts, là. Tu sais, j'étais vraiment tanné.
C'est peut-être pour les cinéastes aussi, tu sais. C'est que ton film s'est perdu un peu dans la mêlée, genre, tu sais.
Ben, peut-être, c'est ça. Mais donc, un parti pris de film, tu sais, des programmes de 4 ou 5 shorts. Des fois, il y a des shorts un peu plus longs aussi, comme. Mais c'est bien, juste pour dire, là, je voulais le mentionner.
Quitte à avoir plus de programmes, finalement.
Peut-être, c'est ça.
Parce qu'ils ont, autant de films que les autres années, là. Tu sais, il y a au moins une centaine de courts-métrages en différents programmes.
Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ce serait peut-être juste une petite affaire que j'ai noté différent. Puis sinon, quand même une bonne différence, puis je pense qu'on peut l'attaquer de front, c'est le film d'ouverture, là. C'est quand même un coup de tambour puis de grande pompe, Blade Runner, pour le Festival du Nouveau Cinéma, c'est quand même un gros catch. Puis, tu sais, ça colle peut-être pas exactement à l'image qu'on peut se faire du FNC. Tu sais, l'image qu'on peut se faire du FNC, c'est évidemment du cinéma des fois un peu plus alternatif, un peu plus exigeant, un peu plus d'auteur, j'aime pas trop utiliser galvauder ce mot-là, mais c'est quand même un peu ça. Donc, c'est Blade Runner, man, en ouverture. Qu'est-ce qu'on en a pensé de Blade Runner?
Ben, juste avant, en fait, j'aimerais juste dire un petit truc. Moi, cette année, c'est ça, vraiment une très bonne programmation comme à l'habitude. Mais moi, j'aurais juste un petit bémol, en fait, face à toute l'identité visuelle cette année. Je l'aime vraiment pas, en fait, l'identité visuelle. Tu sais, je parle de l'affiche, les bandes-annonces, puis les animations qu'on entre avant les films. Mm-hmm. Surtout que le FNC nous habitue à des trucs super mémorables et le fun. Tu sais, des espèces d'affiches que tu comprends pas trop au début, puis qu'à longue, ils viennent te travailler. Là, il y a une espèce de look... je sais pas trop comment le décrire.
On dirait vraiment le poster de Madame Tabali.
Ouais, c'est ça. Il y a un peu de ça aussi.
Mais c'est pas parce que les personnages, ça vient du 375e. Quand j'ai vu ces personnages-là sur d'autres affiches, il me semble, cette année. C'est juste que ça ressemble beaucoup trop, puis ça se mêle. Mais il y a comme une affiche dans le métro sur 375e. C'est une tête de bonhomme. C'est le même genre de silhouette qui est découpée. Je me dis que c'est peut-être en lien avec ça ou peut-être pas. Là. Peut-être que c'est le même artiste qui fait une chose.
Et par rapport à ça, justement, il y a aussi le catalogue. Là, évidemment, ce podcast, c'est auditif, là, vous ne voyez pas, mais c'est comme une moitié de catalogue là, pour ceux qui l'ont vu. C'est super mince, mais en tout cas, je trouve que ça se navigue vraiment mal comme catalogue. Puis je sais pas si c'est une question d'économie, soit comme pour être plus écolo, pour sauver plus de papier ou économie d'argent. Mais c'est dommage, un catalogue que tu peux pas juste déposer sur la table et qui reste ouvert. Donc bon, ça c'est mon petit bémol. Mm-hmm. Et également, tu sais, c'est sûr que on voit que le FNC, c'est pas un festival aussi populaire que Fantasia en plus termes de nombre de spectateurs. Ce qui est un peu dommage, mais en même temps, est-ce que c'est parce que le FNC bat de l'aile ou est-ce que c'est seulement parce que Fantasia est tellement intensément populaire que par comparaison, ça fait c'est un peu dommage. Donc, je ne sais pas exactement, mais c'est ça. Il y a pour les gros films, évidemment, c'est des grosses salles remplies, là, les films attendus.
Ouais, The Square, mais, il est déjà sold out depuis vraiment longtemps, puis t'es comme à l'Impérial sold out depuis déjà une semaine, alors qu'il joue seulement dans quelques jours encore.
C'est ça, il y a
The Square de Robin Oslo.
La Palme d'Or.
Ouais.
C'est ça. Donc, ça, c'est un exemple quand même. Mais effectivement, ouais. Peut-être que c'est très cas par cas, finalement. Puis, tu sais, il y a aussi le fait qu'à Fantasia, il y a moins de films qui jouent en même temps. Puis, moi, j'ai eu cette réflexion-là aussi à Vancouver. C'est comme, tu sais, quand t'as quatre longs métrages qui jouent en même temps sur quatre salles différentes.
Ah non, Fantasia, il y a trois salles en simultané toutes les soirs.
Non, mais, ouais, mais honnêtement, ça a l'air con, là. Mais en trois ou quatre salles okay, qui jouent des trucs en parallèle, il y a quand même une bonne différence. T'sais, à quatre salles, là, tu sais plus comment donner de la tête. À trois, on dirait, je sais que c'est juste une de moins, mais ça se navigue vraiment.
Ouais, mais FNC, c'est plus que quatre salles aussi. Oh, tu as deux salles au cinéma du parc, tu as l'Impérial, la Cinémathèque, deux salles, puis tu as trois salles au quartier latin.
Bon, ben, c'est ça. Donc
on est,
ouais.
On est quand même
à des choix à faire, huit salles. Des choix déchirants.
Oui. Bon, mais c'est ça. Donc, il y a peut-être ça, c'est peut-être moins en parallèle, puis peut-être, effectivement, ben, ou moins de films, ou plus longtemps. Je sais pas. Non, c'est juste des réflexions comme ça, un peu dans les airs.
En même temps, ouais. En même temps, je ne voudrais vraiment pas que le FNC coupe les petits films parce que c'est un peu... Le FNC, c'est peut-être un succès moins populaire, mais j'ai l'impression que ce qui fait que les gens sont fidèles, c'est parce qu'ils ont une programmation audacieuse. Non, il y a des trucs que tu le sais que tu ne verras jamais ailleurs. Puis oui, mettons, je suis allé voir le film d'ouverture Blade Runner. Puis oui, je suis allé voir certains gros films que je le sais qui vont sortir en salle. Mais il y a quand même des films que tu n'as aucune idée ça va jamais sortir ailleurs. Mm-hmm. Comme, par exemple, Hong Sang-soo, qui est un cinéaste coréen que j'adore, qui est quand même... très connu dans le milieu des cinéphiles, mais ses films sortent très peu en salle, entre autres parce qu'il est très prolifique, mais parce qu'il n'y a juste peut-être pas le marché pour ça à Montréal. Donc là, il y en avait deux cette année au FNC, La caméra de Claire et Le jour d'après. Mm-hmm. J'en parlerai pas vraiment beaucoup, là, mais moi, je trouve que c'est quand même bon, deux films très, très légers, pour ne pas dire très mineurs, du cinéaste. Puis, j'aime un peu mieux quand même Le jour d'après. Mais si c'était la première fois que vous voyez un film de Hong Sang-soo, puis c'est un de ces deux-là, peut-être ça vous donnera pas nécessairement le goût de continuer. Mm-hmm. Mais c'est un cinéaste dont l'œuvre s'inscrit vraiment dans le temps, en fait. C'est brique par brique, parce qu'il y a tellement une démarche cohérente. Puis c'est un cinéaste qui est le fun à suivre, et non nécessairement qu'il a fait un ou deux chefs-d'œuvre. Mm-hmm. C'est plus comme tous ces films après l'autre s'enchaînent puis se répondent. Puis d'ailleurs, La caméra de Claire, c'est un peu comme la face opposée de In Another Country qui avait joué il y a quelques années.
C'est ça, ouais.
Où c'était Isabelle Huppert qui jouait une actrice en vacances en Corée ou en tournage, je me rappelle plus exactement. Là, c'est comme ils sont au Festival de Cannes et t'as la muse récente de Hong Sang-soo, Kim Mini, qui rencontre donc Isabelle Huppert à Cannes. Et ça a été tourné, dans le fond, pendant le Festival de Cannes 2016.
Oh, ouais.
C'est un film de comme 69 minutes, c'est super léger. Tu sens qu'ils ont vraiment un peu manqué de temps là, pour faire le film. C'est très simple, maladroit, c'est pas particulièrement raffiné. Mm-hmm. Il y a très peu de ces mouvements de caméra si iconiques.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Il y en a comme très peu. On dirait qu'il n'a pas vraiment pu faire beaucoup de takes. Mais bon, ça reste un petit bonbon pour ceux qui aiment ça. Et c'est ça, c'est ce genre de film-là que je voudrais pas que le FNC coupe. Parce que, mettons, il n'y a pas assez de spectateurs.
Mmh. Ouais, mais ce qui est cool avec l'FNC, c'est que tu as une programmation comme ça, puis de l'autre bord, tu as la section temps zéro, tu sais, qui t'amène dans une bonne direction totalement, justement comme le Café Forzani qu'on est allé voir l'autre jour. C'est vraiment des styles complètement différents dans le même festival, tu sais.
Ouais. Donc, plongeons dans le gros du sujet. On va commencer peut-être par le film d'ouverture, Blade Runner 2049, de notre cher Denis Villeneuve. Moi, en fait, je suis assez étonné de voir qu'il divise à ce point, parce que, bon, il faut savoir que la presse américaine, les critiques américaines ont vraiment adoré le film, pour la plupart, là. En France, ça a été beaucoup plus tiède, et au Québec, c'est assez partagé. D'un côté, t'as ceux qui crient au génie, et de l'autre, t'as Benjamin Pelletier. Non, mais t'en as quand même plusieurs de mes amis, en fait, quand même plusieurs critiques, là, qui ont trouvé que le film était très con. J'ai entendu beaucoup aussi revenir le terme de misogynie. Ça, c'est quelque chose
j'aimerais ça en parler un peu, ouais, c'est ça.
Ouais, j'aimerais ça contrer un peu cette idée-là, parce que j'ai l'impression que ça a été totalement mal compris, peut-être, ce point-là. J'ai l'impression que le film est justement à propos de ça.
Ouais, c'est ça, exactement.
Terrain glissant.
On est quatre doutes qui parlent de ça. Là. C'est sûr que c'est un terrain particulièrement glissant. Mais quand même, je pense que... On va en parler quand même.
Donc, en gros, Blade Runner 2049, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, c'est la suite du film culte de 1982 de Ridley Scott. Ridley Scott, c'est qui produit. Mm-hmm. Je pense que c'est lui qui avait lui-même choisi Denis Villeneuve pour réaliser le film. C'est un film, je trouve que le marketing en a beaucoup trop dévoilé. Puis en fait, l'idéal, ça aurait été de voir le film vraiment sans avoir vu aucune affiche, aucune bande-annonce, tout ça, parce que même le casting en tant que tel, je trouve qu'il y a beaucoup de spoilers là-dedans. Mm-hmm. Donc, on va simplement dire qu'il y a Ryan Gosling qui est dans le film, Puis c'est tout. Mais tu sais, c'est la suite du film culte. C'est encore une question, c'est encore un film de science-fiction qui se passe dans un monde post-apocalyptique où il y a des replicants qui sont comme, dans le fond, des robots, des androïdes, ouais. Dont on a la difficulté, en fait, à savoir s'ils en sont tellement ils nous ressemblent, à nous les humains. Et donc, c'est à peu près ça. Le synopsis.
Et alors, Ryan Gosling est un, ben quand même, on peut quand même dire, tu sais, ça c'est dévoilé, que c'est un Blade Runner là, aussi. Donc lui, il traque les ouais. réplicants qui sont pour les retired, là, en tout cas, qui disent, là, ben, les ouais. terminés, là, si on veut. Ouais. Donc c'est vraiment juste le point de départ. Après, même, il y a des révélations à même les personnages que je pense que ça vaut pas vraiment la peine de les divulguer nécessairement ici. Je pense qu'on va essayer de s'en tirer sans spoiler. Mais. Ouais, ou si ça devient trop, si on a envie de vraiment plus plonger dedans, on vous avertira, là, si vous n'avez pas vu Blade Runner et que ouais. vous écoutez le podcast, on vous mettra en garde si on est pour plonger dans des spoilers, dans des divulgateurs en bon français. Mais ouais, ben d'entrée de jeu, je sais pas, man, moi, je peux le dire au risque de rendre certaines personnes furieuses, mais moi, c'est probablement mon film favori de Villeneuve, au fait. Ou du moins, à tout le moins, clairement, son meilleur film de sa vague récente américain. À mon très humble avis, pour moi, en fait, c'est que... En fait, le film est tellement intéressant pour moi que c'est drôle parce que, justement, c'est comme si on tout de suite, on l'analyse comme avec nos lumières, là, tu sais, d'analyse de films d'auteur qui devraient être, tu sais, blindés au niveau thématique, au niveau scénaristique, au niveau structurel, tout ça. Alors que je pense que le film, c'est drôle, mais il n'y avait pas nécessairement la prétention, tu sais, d'être là, tu sais, je veux dire, si on le prend comme un film, OK, moi, mettons que j'ai 14 ans, OK, je découvre le cinéma, tout ce que je vais voir, OK, au cinéma, c'est des gros films, des comédicons ou peu importe, là, bon, je généralise à fond, OK. Puis là, mettons que je tombe sur un film comme Blade Runner, okay, qui est quand même un film exigeant, qui ose la philosophie, qui ose l'abstraction. Je veux dire, j'en ressortirais, puis ça m'aurait brassé, ça m'aurait ouvert des portes, tu sais, ça m'aurait... J'aurais fait, ah, wow, OK, ouais. Le cinéma peut être ça. Puis pour moi, par exemple, à mon époque, c'était les films de Tarantino qui faisaient ça, tu sais, qui étaient des films mainstream, mais qu'il y avait comme une certaine... quelque chose de contagieux au niveau du style, ou tu sais, on en parle souvent un peu de ces cinéastes-là, là, comme les entrées de gamme de cinéma un peu d'auteur, si tu veux. Les Coen sont un peu comme ça, à une certaine époque, Tim Burton est un peu comme ça, Wes Anderson est un peu comme ça. Tu sais, c'est des cinéastes qui rallient quand même une certaine foule, mais qui challenge un peu notre vision du cinéma. Puis c'est la première fois, en fait, que je trouvais, personnellement, que ben, Denis Villeneuve s'inscrit peut-être là-dedans, tu sais. Le temps le dira, mais j'ai l'impression que ça va être un film qui va avoir marqué beaucoup de jeunes qui je sais pas, qui commencent à définir un peu culturellement ou artistiquement qu'est-ce qu'ils aiment moins. Et puis, ça repousse quand même une certaine limite si on le prend comme un film mainstream. Donc, ouais, moi, d'entrée de jeu, là, c'est très positif. Bon, maintenant...
En même temps, c'est la meilleure défense de dire, tu sais, si j'avais 14 ans, j'aurais trippé sur ce film-là.
Si
j'avais 14 ans, il y a plein de films sur lesquels je tripperais. Là.
Non, je comprends. Mais je sais pas, moi, je l'ai pris comme ce que c'est dans l'outil marketing extrême dans lequel ce film-là existe. Tu sais, je veux dire, ce film-là existe sur des posters impossibles sur un Guzzo, là, tu sais. C'est probablement le meilleur film qu'un poster crissement gros sur un Guzzo, là. Tu sais, je veux dire. Fait à tout le moins... Il y a ça, hey, comme, quand même.
C'est la pochette de DVD, là, Pascal Plante 2017.
Non, mais là, je suis resté en surface. Évidemment, je peux aller plus loin, mais je sais pas, man, je suis capable de... Je suis intéressé de vous... d'entendre vos impressions à chaud aussi, là.
Parfait. Toi, Rémi, est-ce que t'as aimé ça?
Ben oui, vraiment. j'aime ça raconter des histoires, là, mais je peux dire que je l'ai vu dans un marathon 1 et 2. Je suis allé au Banque Scotia. Fallait vraiment que je me rafraîchisse un peu. Là, le 1, c'était comme des années que je l'avais pas vu. Puis là, il présentait le Ultimate Cut restauré, puis tout au Banque Scotia, suivi du nouveau Blade Runner.
Est-ce que c'est en format IMAX, Rémi? Ou...
Non, c'était pas en format IMAX, mais okay. Il y avait les prises de lunettes 3D pour Blade Runner, le nouveau. Là. Tu sais, là, on rentrait dans la salle, puis ils donnaient les lunettes. Tout le monde dans la foule s'en rendait compte. Tout le monde faisait... Ah, tu sais, tout le monde soupirait, personne n'était content, là. Tu sais, on allait voir Blade Runner puis nous donnait des calices de lunettes 3D, là. Tout le monde était.
Je savais même pas, en fait, qu'il y avait une version 3D du film.
Non, il y a même un gars qui a dit, genre, au petit commis, là, genre, tout innocent, qui lui fait juste sa job, il est comme, Ben là, vous l'avez pas écrit sur votre site web que c'est en 3D, là. C'est ça, là.
Genre, fâché, là.
Oui, il est comme, Mais bref, pour revenir au film lui-même, moi, j'ai trouvé ça malade, puis les voir back-to-back, ça m'a fait rendre compte à quel point c'est deux films différents. Les gens qui disent que c'est meilleur que le premier, je suis pas tant d'accord. Je pense juste que c'est vraiment deux films distincts, puis il aborde les mêmes thématiques. Le nouveau, j'ai l'impression qu'il pousse plus loin ces thématiques-là. Le premier, c'est peut-être plus un film noir, un film qui assume plus son statut de film de genre.
Détective, celui de Denis Villeneuve, un peu, là, ouais.
Ouais, c'est ça, t'as le côté vraiment film noir, gritty, t'sais, des personnages qui sont vraiment plus colorés dans celui de Villeneuve. Celui de Villeneuve, il est assez drabe par moment. Ça fait partie de l'esthétique du film, puis t'sais, je l'accepte là-dedans, mais celui de Ridley Scott, je pense qu'il est un peu plus coloré dans sa noirceur, là. T'sais, c'est vraiment un peu plus over the top comme contexte. Plus facile à suivre aussi, l'enquête est très basique dans l'original, qui peut être un plus aussi au film, là, parce que c'est un petit peu plus accessible. Celui de Villeneuve, c'est quand même un gros morceau, selon au niveau thématique, niveau visuel aussi, en fait, c'est beaucoup de bagages dans tes yeux, là. Donc c'était peut-être pas la meilleure idée de faire le marathon au final, parce que je suis sorti un peu épuisé, là. C'est 5h30 là, de Blade Runner. Là. C'était là, beaucoup de cinéma, genre danse en même temps. Mais Villeneuve, je trouve que j'ai vraiment apprécié. Puis, c'est un des trucs que j'aime le plus, là, je sais que ça va faire crier Benjamin parce que j'en ai parlé et qu'il était tristement pas d'accord avec moi. Mais j'aime beaucoup que le film se tienne comme un film et non comme une suite. J'aurais pu regarder le nouveau sans me souvenir du tout du premier. Puis j'aurais vécu quelque chose qui est un début, un milieu, une fin. J'aime ça que ça soit pas genre le début du Blade Runner Universe, genre parce que là tous les films, tous les blockbusters doivent faire partie d'une grosse franchise. Tu sais, ils ont fait La Momie cette année qui a floppé parce que c'était censé être le début des films de monstres. À côté de c'est ça, là, les univers qui essaient de démarrer. Là, puis moi, je suis plus capable de ça. Que ton film, il est pas un film, mais il est le morceau de plein de films. Là. Blade Runner, le nouveau, je trouve qu'il y a il y a vraiment une courbe narrative qui se ferme à la fin, tout au début qui se ferme à la fin, c'est avec un autre personnage qui vit son affaire de son bord, mais sur des thématiques connexes de l'ancien. Il y a bien sûr quelques références, là, ça reste une suite, puis il y a un personnage, il est déjà spoilé dans mon annonce, mais Harrison Ford, il pop dans le film à un moment donné. Pas autant que ce que la bande annonce l'annonce, je vous dirais, là, mais quand même le pont avec le premier, mais je veux dire.
Très, très tard aussi dans le film, là, on peut quand même le dire. Ouais, là, c'est au moins aux deux tiers, là, pas vraiment avant ça.
Ouais. Je l'ai calculé, en fait, c'est vraiment à 2 heures qu'il arrive. Là.
Ah ouais, hein?
Ça aurait pu être genre un autre personnage, un nouveau personnage, ça aurait pas été grave, c'est juste que c'est là qu'ils ont fait le pont. Parce que pour vrai, c'est intéressant là, pour les fans d'avoir ce petit morceau-là, puis c'est un anane de plus, mais c'est comme ça aurait pu être un autre personnage, puis l'histoire aurait fait autant de sens, puis il y aurait eu autant un film fermé que sans que ça soit le personnage du premier. En tout cas, à mon avis, là, il aurait pu juste développer un nouveau personnage dans le même univers. Mais ouais, je trouve ça vraiment bon, mais comme je dis, je pense que j'ai mes petits bémols aussi. Là, au niveau de la durée, il y a des coins que je trouvais qu'il aurait pu. C'est des coins qui auraient pu tourner un petit peu plus rond, mettons. Là. Il y a quelques affaires qui m'ont... Puis Ryan Gosling, pas tout le temps. Ryan Gosling, il...
Je suis assez d'accord, ça. Moi, Ryan Gosling puis Jared Leto, je te dirais que c'est peut-être mes deux quasi-turn-off du film. En fait, mais en tout cas, laissons les autres y aller.
Oui, juste pour revenir sur un petit point que tu as dit, Rémi, en fait, c'est que nous, c'est ça, chez nous, avec ma femme, donc, Laurie, on a réécouté le premier avec des amis pour se mettre dans l'ambiance, pour se préparer pour le deuxième, comme bien les gens, j'ai l'impression, cette semaine. Moi, j'avais déjà vu plusieurs fois, mais Laurie l'avait jamais vu, et elle s'est endormie, donc elle l'a pas vu au complet. Mais tu sais, le premier film, ce que les gens se souviennent peut-être pas, ou peut-être qu'il y a tellement ramassé cette réputation de film culte, de classique de la science-fiction, que les gens ne se souviennent pas à quel point c'est un film simple aussi. Oui, il y a des subtilités, puis oui, tu sais, il y a plusieurs montages, puis il y a une histoire fascinante de la production du film, mais c'est vraiment un film simple. C'est vraiment un petit film de détective, une histoire, tu sais, un détective qui court après 4 robots. Là, c'est à peu près ça le pitch. Là, cette suite-là, en fait, est beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus longue. Mais donc, Laurie, c'est ça, qui n'avait pas vu le premier au complet, a pu suivre le 2 tout à fait facilement. Il y a même un petit texte au début qui explique grosso modo c'est quoi un replicant, etc. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir vu le premier pour aller voir le deuxième film. Mais si vous allez. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le deuxième film là, en fin de semaine, même si c'est pas les meilleurs chiffres du box-office. Là.
Et hein?
Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu le classique, en fait, mais retournez voir le classique, puis les deux, effectivement, sont assez distincts. Les deux se tiennent l'un en soi. On a quand même le problème moderne des espèces de suites nostalgiques qui plongent un peu beaucoup dans les décors, les costumes, les personnages du premier film, comme le nouveau Jurassic Park, comme le nouveau Star Wars, comme tous ces films-là. Je trouve quand même que celui-là le fait mieux, parce que le film quand même est à propos des souvenirs et à propos de ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qu'on se rappelle. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, tu sais, comme par exemple, il y a plein de cues qui sont là, clairement, pour faire une référence au premier film, mais ça va au-delà de ça. Tu sais, par exemple, les fameuses pubs de la chinoise, de Coca-Cola, de Atari, tu sais, c'est toutes les enseignes qu'on voyait dans le premier film, qu'on retrouve dans le deuxième film. Mais en fait, tu sais, parce que toutes les civilisations du monde, tu sais, il y a toujours des ruines, tu sais, comme les Romains nous ont laissé, tu sais, plein d'affaires, plein de trucs. Tu vois le Colisée, tu vois les trucs comme ça, tu sais, qui viennent d'une autre époque, mais c'est avec quoi les ruines du 21e siècle, une fois que notre civilisation va être détruite, ben, on va se rappeler de McDo, on va se rappeler de Coca-Cola, on va se rappeler de Microsoft, tout ça. Donc, ça fait du sens pour moi que ces enseignes-là qui soient encore là. Tout ça, bon, je trouvais que c'est vraiment comme... Je trouvais vraiment que c'est intéressant, en fait, de réutiliser cette iconographie-là. Mm-hmm. Et pour moi, ça va, c'est ça, au-delà de simplement réutiliser pour faire des clins d'œil. Bon, le personnage d'Harrison Ford, on vient un peu de le dire, de dévoiler qu'il est là-dedans. Est-ce que j'aurais aimé ça qu'on se détache de lui? Peut-être. Mais en même temps, est-ce que ça aurait encore plus coulé le film au niveau du box-office? Peut-être aussi. Donc bon, peut-être que c'est un mal pour un bien. Je trouve quand même que c'est intéressant qu'il garde vraiment pour la fin. Le nouveau casting, moi, je trouve assez bon. Mais encore là, mon principal problème avec le film, en fait, c'est vraiment, comme tu le dis, Rémi, c'est une question de durée. Mais c'est pas la durée en tant que telle, c'est le rythme. Puis t'as vraiment l'impression que les scènes sont un peu inutiles. T'as vraiment l'impression qu'il aurait pu avoir un resserrage. Tu sais, le premier film fait 2 heures bien tapantes, là, puis évidemment, c'est beaucoup moins complexe comme scénario. Comme il y a beaucoup moins d'ambition scénaristique, mais pas besoin d'avoir un film de 2h45. Par exemple, il y a l'acteur Dave Bautista, il joue un petit rôle dans le film. Je dirais pas trop c'est quoi, mais il apparaît moins que 10 minutes dans tout le film. T'sais. Puis, est-ce qu'il était vraiment nécessaire? Je pense pas. Puis c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, que je me dis peut-être que le film aurait gagné à avoir un petit remontage. Parce que, qu'est-ce que c'est le film finalement? C'est pratiquement du production design porn. Là, c'est comme. C'est Ryan Gosling qui se promène d'un terrain à l'autre avec des effets visuels, puis des grosses musiques d'Hans Zimmer qui sont assez inspirées de la trame sonore de Vangelis.
C'est vraiment semblable. Hein,
Ouais, puis ça, c'est peut-être ma plus grosse déception en fait, c'est que la trame sonore soit pas plus distincte et singulière. Là. Ceci dit, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est un film beaucoup plus intelligent que ce que les critiques en disent. Puis notamment au niveau de la misogynie, en fait, parce que le film, pour moi, c'est carrément là-dessus. C'est sur le white privilege, c'est sur des hommes blancs,
trentenaires. C'est post-apocalyptique, le monde a foiré. Puis justement, c'est, je veux dire, la suite de la porn de high-speed internet, ça va être, tu sais, la porn en VR, la porn en ci, puis en ça. Puis à un moment donné, c'est des hologrammes, puis tout est au service du fantasme masculin. Puis c'en est une esthétique, je veux dire, toutes les femmes, tu sais, sont en talons hauts, je veux dire, comment qu'ils marchent, tout le son, tout, tu sais, je veux dire, les jambes des femmes, tout le rapport à ça, puis... Je veux dire, il y a quand même un closure quand même assez bitter, assez acerbe par rapport à ça, tu sais, je veux dire, quand... En tout cas, tu sais, on peut pas vraiment trop le révéler.
On peut pas full en dévoiler, mais je sais...
Mais pour moi, c'est clairement un thème, c'est clairement un thème, puis c'est qu'il l'a tellement crinqué que ça me surprend que beaucoup de gens... Mais en même temps, tu sais, je peux pas faire la police de qu'est-ce qui choque et qu'est-ce qui choque pas. Si ça vous a choqué, vous avez 100% le droit d'être choqué. C'est juste que moi, je l'ai vraiment vu comme un thème profond du film et un commentaire et même une critique. Effectivement, si on le voit pas comme tel puis ça nous choque, ben comme je disais, moi, je suis qui pour te dire choque-toi pas, tu sais. Bon, bref.
Ouais. Ça me rappelle un peu le débat de Elle, là, de Paul Verhoeven, le débat sur le viol où c'était comme, ça, c'est un film pro-viol, c'est comme, wow, attends un peu, c'est un peu... C'est un jugement qui vient vite, qui est peut-être pas genre vraiment pas l'intention du film, là, tu sais.
Mais bon.
Puis au-delà de la misogynie aussi, c'est aussi par rapport aux minorités et aux autres groupes. Tu sais, c'est vraiment nos protagonistes sont des hommes blancs, trentenaires, qui se croient tout permis, qui font carrément la loi, littéralement. Et c'est qui, dans le fond, les gens duquel ils retirent de l'information du pouvoir, c'est un noir, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des étrangers. Donc, toutes les autres classes sociales, raciales, ethniques, etc., qui sont au service de l'homme blanc. Puis, fait que pour moi, c'est tellement au centre du film que ça fait pas de sens de c'est pas la représentation n'égale pas
le regard de l'auteur comment... un peu là
ouais, c'est ça. Donc pour moi c'est carrément le thème du film. Donc mais bon, ensuite peut-être que j'ai tort aussi, puis peut-être qu'il y aurait une manière de traiter ça sans nécessairement qu'on dénude des femmes à gauche et à droite.
Ouais, c'est ça.
Mais pour moi il me semble que c'était la façon justement de subvertir le regard du spectateur. Fait que pour moi honnêtement c'est une grande réussite. Puis tu sais, pour vrai, comme je regarde les blockbusters de l'année, puis moi c'est entre ça puis War for the Planet of the Apes, je trouve qu'on a eu deux blockbusters super intelligents, super gros, qui jouent avec les outils des gros films d'action, mais qui proposent beaucoup plus que qu'un simple film divertissant. Donc pour moi, pour vrai, je lève mon chapeau à Denis Villeneuve. Est-ce que c'est mon film préféré? Moi j'ai beaucoup aimé Arrival. C'est peut-être plus fin au niveau scénaristique, c'est peut-être plus ambitieux aussi. Puis j'aime pas tellement l'espèce de twist final du troisième acte de Arrival, mais en termes de patience puis en termes d'ambiance, j'adore comment que Denis Villeneuve travaille en fait dans les deux films là, également dans Blade Runner là. Donc ouais, moi j'ai vraiment hâte de voir. Là il a signé officiellement pour Dune, puis je suis très excité de voir ça. Puis toi Benjamin, est-ce que tu corrobores tout nous dire?
En fait là je me sens un petit peu seul dans mon coin
parce non mais vas-y man.
Après 20 minutes de... Non mais en fait là j'ai quasiment, pas que j'ai l'impression qu'on a vu un film différent, mais en fait moi ma première impression c'est que de un la durée est inexcusable. Je veux dire, c'est un film qui est tellement continuer sur ce que Paul disait dans le fond, c'est que le premier Blade Runner en fait là, c'est qu'en 82 là, je veux dire c'est un film qui a pas tant fonctionné, qui a été un flop commercial. Puis je veux dire, maintenant, c'est un film dont on connaît tellement la mythologie. Je veux dire, c'est plus qu'un film culte. Là, je veux dire, c'est comme un chef-d'œuvre de la science-fiction. Tu sais. Puis je veux dire, chaque plan, chaque rythme, chaque image du nouveau Blade Runner est comme conscient de cette mythologie-là. Puis, tu sais, je veux dire, 2h45 avec un scénario si mince, je trouve ça difficile parce que, je veux dire, il y a tellement de scènes. C'est comme si les personnages savait qu'il était dans Blade Runner, tu sais. Fait que j'entends Jared Leto qui parle vraiment lentement, puis que c'est vraiment... Tu sais, toutes les scènes sont étirées pour l'ambiance plus que pour la thématique ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que ça, c'est un mot pour la durée que je trouve absolument inexcusable. Je trouve que ça va... Pour chaque spectateur, comme Pascal disait, adolescent, qui va peut-être embarquer, ça va sûrement en turn-off pas mal, assez inutilement même, tu sais. Puis en fait, moi, je trouve qu'en sortant de là, j'ai pas eu une impression différente que quand j'ai vu, mettons, Jurassic World ou quand j'ai vu The Force Awakens, tu sais, dans le sens que c'est un film, qui est vraiment esclave à l'original puis à toute sa mythologie, je veux dire, puis... c'est difficile de pas spoiler, mais il y a beaucoup de retours, en fait, je trouve que... Beaucoup de retours à l'original, je trouve que vous...
Même, il est quasiment revisionniste, en fait, de l'original, sans évidemment divulguer, mais il y a carrément un moment avec Harrison Ford où c'est comme si on piège même le premier film, puis ça nous force quasiment à réanalyser le premier film. Ça, j'ai trouvé ça... ça prenait des bases,
En tout cas, c'est une version plus intellectuelle, mettons, d'un Force Awakens, d'un Jurassic World, dans le sens qu'on build tout le temps sur la relation avec le premier film et le spectateur. Je veux dire, vous aviez dit que c'est pas nécessaire de voir le premier pour voir le deuxième. En fait, moi, je pense que c'est même mieux de pas voir le premier parce que c'est le genre de suite
qui résume le premier
puis qui enlève de ses mystères. Je veux dire, tu sais, le premier, c'est un film qui est intime. Vous avez dit, c'est ça, c'est un néo-noir. Je veux dire, tu sais, il y a pas beaucoup de personnages. Ça a juste une dynamique interpersonnelle vraiment simple, tu sais, puis... sans dire exactement ce qui se passe, tous les symboles du premier qui reviennent, puis je veux dire, il y a un moment où t'as carrément une scène du premier qui revient, là, tu sais, je veux dire, t'as une shot du premier, là, tu sais, puis je trouve que ça décomplexifie l'original, en fait, dans le sens que le premier, c'est un film qui est tellement mystérieux, c'est un film que j'ai vu peut-être 6 fois, puis à chaque fois, j'ai plus aimé ça que la fois d'avant, tu sais, puis là, je veux dire, c'est un film qui est tellement pris, je veux dire, moi, quand je pense à de la science-fiction, là, je veux dire, je pense à quelque chose qui m'amène plus loin, je pense à quelque chose qui m'ouvre les horizons sur ce que le futur est par rapport au présent. Alors que ça, je trouve que c'est le contraire. C'est un film qui continue à te ramener en arrière. Même la musique d'Evangelis que vous avez dit, je veux dire, cette musique-là en 82, ça devait filer spécial, ça devait filer nouveau. Voir cette même musique-là, parce qu'on sent que la musique d'Hans Zimmer est assez proche de la musique d'Evangelis. C'est un effet contraire. Je trouve que ça fait juste te garder dans le passé. Puis là, on peut dire que comme c'est ça le thème du film, c'est les souvenirs, c'est... Mais en même temps, c'est le thème du premier aussi, puis je trouve que c'était fait de façon tellement plus élégante, plus simple. On pourrait dire que le deuxième va plus loin, mais moi, je trouve qu'en fait, on fait juste reprendre les mêmes sentiers battus plus longtemps, tu sais. Fait écoute, j'ai... Je suis content d'avoir entendu vos avis pour elle, parce que moi, je suis allé voir avec du monde qu'on on avait tout haï ça, dans le fond.
Ah ouais, hein, carrément. Hein.
Là, je voulais vraiment avoir un autre point, mais...
Mais non, mais c'est drôle, puis je suis assez d'accord, la durée est... c'est assez colossal pour finalement...
Un ouf-fest, là, c'est tellement long, là, ça pas...
Mais, non, mais... Moi, je trouve qu'il faut quand même réfléchir au rythme. Puis, moi, pour moi, il n'y a pas de problème en soi que des fois, tu partes un peu dans ta tête. Tu sais, parce que Blade Runner, par exemple, 2049, comme tu disais un peu, Paul, c'est un peu de la production design porn. Puis, tu sais, on dirait qu'il se rend du point A au point B, puis on le voit se rendre du point A au point B. Tu sais, je veux dire, si tu fais juste, mettons, enlever tous les moments où il se déplace, soit en vaisseau, ouais, soit à pied, tu sais, ouais, il ouvre une porte, il rentre dans la porte, il marche, il fait ci, il fait ça, il déambule finalement un peu tout le long du film, tu sais. Mais moi,
c'est vraiment pas ces passages-là que j'enlèverais.
Ah, ok,
en fait.
Ben c'est ça.
Moi,
ben...
j'enlèverais carrément certains personnages.
Ben, non, mais, comme okay, par exemple... ben là, je suis ouais, vraiment d'accord avec toi. Ok, excuse-moi.
Jared Leto,
peut-être pas compris. Jared Leto, c'est vraiment lame, effectivement. Ça, je suis très d'accord.
Pourquoi le monde haïsse tant Jared Leto? Il y a comme une haine, tu sais, il y a genre Anataway, là, pendant un bout, là, tout le monde l'haïssait pour une raison. Genre X, là.
Non, c'est pas que son casting, c'est juste son personnage, là, tu sais, je veux dire.
Non, mais Jared Leto, en général,
c'est le Tyrell du 2,
dans un film. Tous les cinéphiles, genre, paniquent quand ils popent dans un film, comme, ah oh non, est-ce qu'il y a Jared Leto là-dedans? Il me semble que j'entends ça souvent, là, tu sais.
Ah ouais, okay.
De base, même sans avoir vu son rôle, le monde, il panique, là, tu sais.
Ah ouais.
Comme suite à son Joker ou.
Peut-être.
Parce qu'il représente un peu une espèce de forme un peu extrême slash prétentieuse des character actors, genre, tu sais, puis je veux dire, je pense que c'est ça qui gosse un peu le monde, mais je veux dire, c'est pas son casting ici qui dérange, là, en fait, mais pour revenir aux images, la critique américaine, surtout, est vraiment bandée sur l'aspect visuel du film, puis tu sais, je veux dire, on peut pas l'enlever, là, les images sont vraiment belles, mais pour vrai, on dirait que pour beaucoup, la définition d'un cinéma visuel, c'est comme aligner 3-4 belles shots l'une à la suite de l'autre. Puis je sais pas, moi, ma définition d'un cinéma de même, elle va peut-être plus loin que ça. Mais, ah, puis parenthèse aussi, là, on va. Roger Deakins, props, là, mais ça me gosse d'entendre tout le monde dire ah, les images sont tellement belles, Roger Deakins. Ouais, comme si c'était pointé dans le futur, puis il avait filmé ça. Tu sais, je veux dire, le travail, un peu comme Mad Max, le travail. Je veux dire, chaque shot a le travail de centaines d'artisans.
Ouais.
De la photo jusqu'aux effets visuels, je veux dire, c'est vraiment un travail complexe, fait que je trouve que c'est un peu réducteur de juste dire genre Roger Deakins.
Ça, je suis assez d'accord, mais ça, c'est un discours qui est extra film. Mais
c'est
tu sais.
Ouais, non, ça, je sais, ça, c'était.
C'est pas comme le drame des bons,
mais dans le sens que je trouve que c'est un film qui est intéressant plastiquement, mais en termes de mise en scène, je trouve même pas que c'est le film le plus intéressant de Denis Villeneuve, là, tu sais, je veux dire. Je trouve qu'en fait, Deakins et Villeneuve te font. Essaie de te faire oublier le fait qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe dans ce film-là.
Non, mais en fait, c'est ça. Mais c'est ça. Puis juste pour finir sur le point, c'est que moi, j'ai vraiment apprécié d'être capable, finalement, de devant un objet qui est quand même une vocation, comme je disais, blockbuster, de m'être retrouvé un peu à philosopher. Tu sais, je partais dans ma tête.
Ça, c'est vrai.
Le film propose un peu des pistes, un peu de l'entrée de gamme de philosophie 101 post-apocalyptique futuriste, ouais, peut-être. T'sais, c'est pas particulièrement brillant, mind-blowing, puis nouveau, puis novateur, mais tu sais, je sais pas, moi, à travers ces shots de déambulation-là, à travers ce personnage-là, justement, qui se balade dans des ruines, ou tu sais, comme je disais, un peu le rapport à l'homme blanc, le privilège, les opprimés, le futur en général. Puis, y a personne qui a vraiment le point de vue politique de la chose. On est juste, justement, comme dans une espèce de ruine moderne. Puis moi, d'accompagner un personnage qui déambule là-dedans, ça m'a fait, finalement, étrangement, oui, réfléchir au présent. Puis, le film propose pas grand-chose, mais donne quand même un certain temps et un certain espace, et moi, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai trouvé que ça... Tu sais, oui, c'est espacé. Oui, effectivement, la musique, c'est très droney. Tout est un peu hypnotique, mais moi, j'ai apprécié d'être plongé dans un objet comme ça qui, comme je disais un peu au début, qui osait une certaine abstraction puis une certaine méditation. Par contre, là où je rejoins Paul, effectivement, si on rentre dans des critiques plus pointues de construction scénaristique, moi, il y a vraiment des soubresauts, des personnages carrément, des petits apartés avec... Que je trouvais finalement assez inutile, tu sais, puis
chaque personnage que tu vois pour la première fois pendant 10 minutes de genre son passé puis tout là, tu sais, je veux dire, c'est une des raisons pourquoi le film est vraiment long là, tu sais, mais
ouais, bon. Ouais, peut-être c'est ça. Donc, tu sais, il y avait peut-être une réflexion à faire là-dessus, mais moi j'ai en ressorti franchement impressionné.
Ouais, mais l'univers, c'est sûr, parce que ça c'est clair là, je veux dire, ce qui est vraiment fascinant, c'est que c'est un espèce de gros contraste entre un univers qui est rendu presque over numérique, tu sais, et les ruines physiques, tu sais, des buildings puis des vestiges du passé, c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment une vision du futur qui est potentiellement accurate, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu vers ça qu'on s'en va.
Donc bref, il va falloir qu'on enchaîne en fait, là, parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est sur Blade Runner, puis il y a d'autres films qu'on veut jaser. Juste pour vous dire, en fait, ceux qui n'aiment pas trop le rôle de Jared Leto, le premier choix de Denis Villeneuve, c'était David Bowie.
Oh,
mais,
oui, malheureux, c'est vrai,
mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Donc on ne saura jamais vraiment ce que ça aurait donné, mais ça aurait potentiellement été plus intéressant, j'ai l'impression. Sinon, ok, d'autres films qu'on a vus au FNC qu'on veut absolument jaser, The Florida Project de Sean Baker, moi je ne l'ai pas vu. Pascal, tu nous en avais déjà parlé rapidement. Benjamin aussi, toi, t'as pas mal aimé ça, je pense, Benjamin. Hein?
Moi, en fait, c'est mon film préféré de l'année jusqu'à maintenant. C'est sûr qu'il en reste beaucoup à voir. Il en reste vraiment beaucoup à voir, fait que je vais pas locker ça comme top choix de l'année, mais pour vrai, c'est Sean Baker, son dernier film, Tangerine, il y a 2 ans, que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, que d'un réalisateur qu'à ce moment-là, je connaissais pas du tout. J'ai pris un peu à la veuglette quand il jouait à Fantasia.
Mais c'est pas son premier film, Tangerine.
Non, c'était pas son premier film. C'était pas son premier film du tout, mais je l'avais. Okay. Tangerine jouait à Fantasia. J'étais allé un peu à la veuglette, comme j'aime dire. Puis dans le fond, avec ces deux films-là, tu peux vraiment dire que c'est. Pour vrai, je le comparais à un réalisateur comme Mike Lee ou. Tu sais, ce genre de réalisateur-là. Ou André Arnold, mettons, j'en parlais avec Rémi l'autre jour quand on en sortait. Mais en version plus frénétique, peut-être un peu plus. Vraiment un bel entre-deux entre. Ça sonne presque cliché, mais c'est tellement. Ça décrit tellement bien son cinéma. Là, une espèce d'entre-deux entre l'âpreté du réalisme des personnages et de leur situation et l'espèce de regard innocent. Dans le cas de Florida Project, les personnages principaux, c'est des enfants de 6 ans, tu sais. Puis sans non plus rendre ça un espèce de film qui utilise vraiment les enfants de. J'ai jamais vu des performances d'enfants comme ça pour vrai. J'ai jamais vu ça.
Je sais pas
comment elle est faite pour les diriger. Là. Il a dû faire vraiment une recherche assez précise de casting parce qu'il y a la petite fille, là, Brooklyn Prince, son nom, je pense. Mais,
Brooklyn, quelque chose. Ouais, Prince, ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, mais c'est. Écoute, c'est. Je vous laisse enchaîner. Là. Moi, je suis encore un peu sur le cul de ce film-là. Fait que Rémi.
Moi, je l'ai pas vu.
Donc... Ouais, Rémi est avec moi dans la salle. Je sais pas si.
Rémi, je suis curieux d'avoir ton avis.
J'ai vraiment aimé ça. Ça va être haut dans mon top aussi. Tu sais, bon, ça, puis Good Time, moi, c'est mes deux gros morceaux cette année. Là. Deux films bien différents, là, mais tu sais, c'est pas là. Moi, je suis sorti, je trouvais que ça m'a tout de suite fait penser à American Honey. Là. C'est le lower class America qui traîne dans des motels avec des. Plein de non-acteurs, ben, t'sais, ou des gens pas formés classiquement, avec un acteur très formé à travers, qui est Willem Dafoe, qui se mêle super bien. Ça m'a vraiment, toutes ces affaires-là, ça me faisait vraiment penser à American Honey. American Honey est sûrement un peu un meilleur film. Florida Project est probablement plus fun, par exemple. T'sais, je regarderais sûrement plus Florida Project une deuxième fois qu'American Honey. C'est drôle, c'est accessible, je sais pas ce que je peux dire de plus que toi, là, Benjamin, mais c'est comme...
Ouais, c'est accessible sans tomber dans les tendances trop crowd-pleasing, tu sais, je veux dire.
Non,
c'est tout le temps un peu sur la marche, c'est vraiment une corde à raide intéressante, puis toi, Pascal, aussi, je pense que t'avais beaucoup...
Non, moi,
t'es là, t'es dans... Mais tu sais, t'es comme dans le petit motel, puis t'as un huis clos, là, t'es juste avec eux, puis c'est le fun, là, t'as comme des personnages qui vont popper pour une scène puis disparaître le reste du film. Là.
C'est
le vieux bonhomme qui va parler aux jeunes, aux tables, à pique-nique.
C'est vraiment, c'est vraiment intéressant, c'est que t'as comme une absence de jugement. Je veux dire, t'as des scènes où tu vas avoir des comportements vraiment cute d'enfant, puis la scène d'après, tu vas avoir des comportements presque aberrants par la mère, mais yet, le regard du cinéaste, la caméra, te montre pas ça différemment. Tu sais, je veux dire, c'est juste... Ouais. Chacun fait partie du quotidien, il y a du beau, il y a du laid, puis c'est pas... Il n'y a pas de distinction faite a priori par Sean Baker. Tu sais, c'est
ben
ça,
non, mais
vraiment,
c'est ça que je voulais dire.
C'est dur à faire, ça.
C'est, en fait, moi, ce qui élève le film, parce que c'est évident, je veux dire, le film est empreint d'une énergie, juste comme ça déborde, les enfants sont. C'est des tornades, là, je veux dire. Puis tu pars avec eux autres, puis t'amènes par le bout du nez, man, pendant un film de 2 heures, puis. T'es complètement halluciné, puis des performances nuancées d'enfants. Puis en même temps, Sean Baker, c'est ce qui en fait pogner encore plus la pâte, c'est effectivement c'est son regard. Il y a vraiment, comme tu dis, une absence de jugement, une compassion, un certain amour, mais en même temps, ben oui, une critique, c'est sûr, une critique, mais la critique, elle déborde du cadre des personnages. La critique, c'est sur l'espèce d'Amérique, là,
on clouait sa tête, là, jamais, tu sais.
Exactement, puis c'est que les personnages, c'est des véhicule, s'il y a une critique, la critique, elle est vaste, elle est pas sur eux. Puis ça, c'est fait vraiment du bien à voir. Puis je veux dire, bon Dieu, le film trouve le tour d'être drôle, d'être... Puis tu sais, vraiment, là, on rit fort par bout, puis il y a une finale avec le jeu de la petite, puis genre, on n'en révélera pas, mais genre, qui vient quasiment d'où... Sans crier gare, t'es comme, OK, wow, je pensais pas que le film allait virer en émotivité comme aussi puissante, puis d'un coup, puis c'est... Ça, c'est la preuve que moi, je m'y étais complètement abandonné, c'est-à-dire le film pouvait, en claquant des doigts, me faire passer d'une émotion à une autre. J'ai été complètement mené par ces enfants-là qui sont en apparence naïfs, mais qui, finalement, en ont peut-être beaucoup plus à raconter qu'on peut penser. Puis j'avais lu une entrevue sur Sean Baker... juste une petite parenthèse, mais le processus de casting, je veux dire, la mère, ils l'ont casté sur Instagram, les enfants, ils ont casté sur YouTube, c'est des affaires comme ça, puis un peu comme Andrea Arnold, c'est pour ça qu'il y a une réflexion sur le casting qui est franchement intéressante. Puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? T'as peur, Sean Baker, nanana... Bon, ben...
Mais c'est vraiment une bonne idée de lieu, en fait, pour où situer ton drame à motel. T'sais, c'est tellement comme une belle... je trouve que tu vas vraiment comme visiter une strate populaire de la population.
Ouais, c'est un motel à côté de Disney. Exact. Ça, c'est vraiment important. C'est comme la pauvreté à côté des riches vacanciers.
Exactement. C'est comme dans Tangerine, tu sais. J'étais dans Tangerine, tu sais, au milieu de tout le glamour, tu sais, c'est...
Ouais, exact. Ouais,
c'est avec le monde qui l'ont pas eu facile, tu sais, t'as les Disney shops de l'autre côté de la rue, t'as les pancartes de Mickey Mouse, puis comment ça s'appelle, les espèces de voies d'autoroute qui sont nommées avec les personnages de Disney, fait que tu vois tout ça à travers le film, mais eux, ils sont comme zéro là-dedans, c'est juste que ça fait partie de leur décor quotidien, de voir du monde aller se payer des billets de à 1000$.
Souvent des chocs d'hélicoptère, de monde qui font des tours d'hélicoptère.
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il y a tout ça, il y a comme un caractère social, mais on reste à hauteur de personnage, puis c'est plein d'empathie, plein de couleurs. Je veux dire, le film ose jusque dans sa finale, là, que je ne dévoilerai pas, mais vraiment, on a... que je sais qu'elle peut diviser la toute fin, là. Je sais que ça a divisé. Moi, j'ai eu des discussions assez musclées sur la toute fin, que moi, je la trouve magnifique, je la trouve. Mais après, ça se peut que ça vous égare peut-être à la. Vraiment, on parle des deux derniers plans du film quasiment. Là.
Mais bon. Aussi, c'est pas comme si c'était vraiment une grosse closure. Ouais, bon. Là,
exact.
Moi, je trouve que ça fit parfaitement, mais tu sais, ouais, rendu là. Ça en laisse à l'interprétation aussi.
Mais il y aurait plus à dire, mais on peut quasiment enchaîner peut-être un autre, là, mais je me rappelle plus de ce que j'allais dire. Il me semble que j'avais comme un point genre semi-intelligent puis intéressant, puis complètement obligé. Ouais, fait que, mais juste comme, voyez-le, là, c'est trop bon pour elle. Voilà.
Un autre objet de pur cinéma qui était au Festival du Nouveau Cinéma, peut-être mon film le plus attendu de l'année, c'est le troisième film du duo belge Hélène Cattet et Bruno Forzani. Celui-ci, Laissez bronzer les cadavres, basé sur un roman... probablement un roman ultra classique, en plus, je ne l'ai pas lu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est eux qui nous ont donné Amère et L'étrange couleur des larmes de ton corps. Il y avait d'ailleurs une rétrospective complète de leur œuvre, incluant leur court-métrage au FNC.
Il y avait une masterclass aussi, ouais, c'est ça.
Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais vu, en fait, un de leurs films, là, c'est vraiment eux, ils s'amusent avec tous les effets optiques de caméra, de mouvement, de montage, de couleurs. Possible et imaginable, mais vraiment plus à l'ancienne un peu là. On est dans les hommages, puis dans on revisite les certains genres. C'est une démarche qui rappelle beaucoup évidemment Tarantino, les trucs comme ça. Un cinéma postmoderne, celui-là, c'est un western tellement rythmé qu'il ferait passer Sergio Leone pour Michael Haneke. Donc c'est drôle hein, parce que j'ai essayé en fait de montrer la bande-annonce à un de mes amis parce que j'ai parlé du film et la bande-annonce elle fait presque passer ça pour un film normal là, mais c'est dur à décrire, mais vraiment quand on est dans le film c'est quasiment un concert rock là. C'est comme un plan après l'autre d'un extrême à l'autre, d'un insert d'un œil à un gros bruit de balle qui part à une giclée de sang rouge sur une toile blanche. C'est ça, un rythme proche du surréalisme aussi, on n'est pas loin de Buñuel.
Dans les figures de style là, à tout bout de champ, puis c'est presque littéraire tellement ça fait
côté désert, là. Le côté, les peaux huileuses, puis les peaux huileuses, mais là avec les espèces de métaphores visuelles ultra...
Non, mais c'est ça.
On n'est pas loin aussi d'une bande dessinée, évidemment, parce que l'influence de la BD belge, on la sent un peu, les romans graphiques. Vous étiez là, les gars. Qu'est-ce que, ben, pas toi, Pascal, mais Rémi et Benjamin. Est-ce que ça a été une réussite? Benjamin, toi, c'était la première fois que tu approchais leur cinéma. Comment ça s'est passé, cette première rencontre?
Ben, c'est ça, moi, je sautais là-dedans un peu à frette, parce que ça fait longtemps que je connais les cinéastes sans avoir vu leur film d'avant. Là. Puis, tu sais, je veux dire, toi, tu m'en parles depuis un certain temps. Je sais que c'est des cinéastes que tu aimes vraiment beaucoup, puis que, dont tu apprécies la démarche. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment... En fait, je suis vraiment content d'avoir vu, parce que c'est... Pour vrai, ils font du travail qui est comme... que t'as pas vraiment d'équivalent ailleurs. Tu sais, quand on parle de Tarantino, là, je veux dire, c'est... Prends les moments les plus stylisés de l'ensemble de la carrière de Tarantino, puis mêlez, mettons, à puissance 10, puis crée ça pendant une heure et demie, genre, tu sais, je veux dire, c'est... J'ai l'air d'exagérer, mais même pas, là. Pour vrai, là, c'est vraiment... Ouais. C'est carrément ça, puis même à un point que... C'est difficile, je trouve, d'embarquer dans le film parce que, je veux dire, c'est quasiment l'équivalent de manger trop de bonbons d'une shot, tu sais. Je veux dire, après une demi-heure, c'est un effet presque étourdissant. Mm-hmm. Mais pour vrai, il y a vraiment des moments visuels qui m'ont marqué. Puis quand je dis que c'est presque littéraire, je veux pas dire que c'est... Je dis ça presque dans le... C'est dans le sens des figures de style, puis des comparaisons visuelles, puis t'es tout le temps, je veux dire... À un moment donné, il y a genre une... Il y a un gars qui, dans un espèce de délire, de rêve, se fait pisser dessus. Puis après, tu reçois... Tu vois un autre shot où il reçoit, parce que dans le fond, le magot du film, c'est des lingots d'or, puis là, il se pisse dessus, puis là, il reçoit comme de l'or liquide d'en face. Je veux dire, t'es tout le temps dans des... dans des
effets. Hey, c'est un golden shower littéraire.
C'est ça, genre, c'est comme... C'est ça que je disais avec Paul, c'est le genre d'image ou de petits moments que t'aurais dans un film, puis ça serait ça. Ça serait un des trucs dont tu te rappellerais de plus, puis là, c'est vraiment pensé de même à chaque scène, quasiment.
Mais... Ouais. Évidemment, on parle de western, on parle de surréalisme. Je veux dire, El Topo, Jodorowsky, est-ce que ça vous a un peu évoqué ça aussi? Ou c'est comme...
Parce que moi, c'est que... Oui, puis surtout dans le côté sexuel, en fait, puis dans le côté très primal de la chose. Je pense que c'est des cinéastes travaillent beaucoup par instinct aussi. Puis tu vois souvent, t'as des corps de femmes nues, t'as des grosses gueules. Puis souvent, tu dis... Je pense pas qu'il y a vraiment une justification derrière la shot, autre que c'est beau, genre. Puis ça look beau, là, tu sais. Toi, Rémi, est-ce que t'as apprécié le film?
Oui, vraiment. Puis moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'habitude, j'ai trouvé ça un petit peu accessible. Là. Ça fait du bien narrativement parce que les deux premiers films sont... Ben, ils l'ont dit eux-mêmes, là, c'est des films labyrinthiques. Là. C'est des films que narrativement...
Et ça doit être vraiment élevé, là.
Le but, c'est vraiment des ressentis. C'est limite expérimental dans le montage, expérimental au niveau narratif. Celui-là, ben, ils ont pris une histoire ultra traditionnelle de film de gangster, et ils l'ont adapté avec leur esthétique. Ils l'ont déconstruit aussi avec leur esthétique. Je suis sûr que l'histoire est encore plus simple de base. Là. Ils parlaient après le film que c'est un roman qui est très mécanique, là, qui est très structuré. Mais eux, ils l'ont déstructuré un peu, puis ils l'ont tout mis à leur sauce. Je trouve ça le fun, en fait, qu'ils fassent ça, parce que les deux autres films, moi, j'aime vraiment ce qu'ils font, mais ça reste que c'est des films quand même difficile à regarder, puis que... Tu finis, puis tu te dis pas, hey, j'ai tellement vécu une bonne histoire avec ces personnages intéressants-là. Ouais, ben... C'est juste comme, t'as plein d'images en tête, t'as des feelings, des sentiments par rapport à ces images-là. Mais là, tu vois, tu peux résumer l'histoire en une phrase, puis tu peux, t'as quelque chose de plus simple à suivre. Fait que je pense que ça fait quand même du bien, tu sais, puis mais reste, ils se sont pas du tout travestis à cette histoire-là. Ils ont vraiment gardé leur identité visuelle, ce qui est intéressant, là.
Mais c'est sûr qu'ils ont un cult following quand même, parce que, tu sais, c'est regarde, OK, moi, j'avais vraiment eu de la grande difficulté avec l'étrange couleur des larmes de ton corps. Par contre, il faut rendre à César ce qui vient à César, c'est que je trouve que c'est facile dans le cinéma surréaliste de venir un peu de genre de soit de l'école un peu Buñuel, soit de l'école un peu Lynch, soit de l'école un peu Jodorowsky. Puis j'avais quand même l'impression que Kateh Forzani approchait le cinéma surréalisme quand même d'une façon unique, tu sais, c'est-à-dire, tu sais, oui, on les sent les influences des giallo, on les sent les influences de certains films peut-être, mais il y a quand même quelque chose d'assez unique dans leur travail de surréalisme. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'ils sont juste en train d'essayer d'imiter justement Lynch ou d'essayer d'imiter Jodo ou tu sais tout ça. Donc quand même, je veux dire, c'est vraiment c'est super audacieux, c'est super unique. C'est sûr que tu sais, des cinéastes comme ça, aussi radicales soient-ils, vont trouver leur niche, puis de convertis, puis de gens qui triplent, tu sais, c'est sûr, là.
Ben, c'est sûr que si on a quelque chose pour le cuir, on va apprécier.
Et jamais... la caméra bouge, t'as des bruits de cuir.
C'est tout le temps des bruits de cuir, genre, tout le temps.
Ouais. Je pense à Torque, genre, mais...
Oh, shit.
Oh, wow, on loupe.
On loupe avec...
Non, mais moi... moi pour vrai, bon, moi j'ai adoré. Je trouve que c'est ça. Je trouve qu'il faut arrêter de penser le cinéma comme uniquement un vecteur de scénario et de personnages forts.
Non.
C'est également un médium visuel et sonore. On n'est pas loin de, tu sais, mettons l'homme à la caméra non plus. Il y a quelque chose vraiment de. C'est ça, on verse dans l'expérimental. Deux choses qui m'ont vraiment agacé. Premièrement, il y a une espèce d'utilisation de l'intertitre. Ils vont toujours dire, mettons, bon, là il est rendu 10h10. Puis là, ça coupe, tu sais, il y a une coupe au son, une coupe à l'image. Ouais, mais c'est vraiment trop surutilisé. Ouais, puis souvent, ils vont utiliser ça aussi pour revenir en arrière, pour montrer un autre point de vue. Mais tu sais, t'as pas besoin de couper tout le temps. Fait que ça, à la longue, c'était vraiment gossant. Tandis que, tu sais, dans leurs idées visuelles, ça se renouvelle quand même beaucoup. Ceci dit, je trouve que la première... Tu sais, le film commence super fort et va jamais vraiment rejoindre ce sommet. Il y a comme une séquence pré-tite d'une dizaine de minutes. C'est à peu près le meilleur truc qu'ils ont jamais fait. Ensuite, toute la première partie qui se passe durant le jour, en fait, on est comme en Méditerranée, tu sais, dans une super villa, dans des ruines, pis des trucs comme ça. Ça, c'est super beau. C'est des couleurs à plat, le ciel bleu, le sang rouge, l'or jaune. Ça marche super bien. Et toute la deuxième moitié se déroule durant la nuit. Puis ça, je trouve que ça marche moins bien, en fait. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à assez se renouveler, peut-être, dans leurs effets d'ombre et de lumière. Donc, je trouve que la deuxième partie est un peu banale par rapport au début, en fait, qui commence si fort.
C'est pas banal comparé à le reste des films.
Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment des séquences incroyables. Je pense à une séquence, à un moment donné, où, à la trame sonore, on entend comme le bruit d'une mitraillette. Et à l'image, c'est une fille vêtue d'une robe bleue qui se fait déshabiller. Sa robe est déchirée au fur et à mesure, comme par les coups de feu, en fait. Puis là, il y a aussi un effet stroboscopique, un peu comme l'obturation d'une caméra qui va pas assez vite. Tu sais, c'est des idées de cinéma comme ça qui sont hallucinantes puis que je vais me rappeler sûrement toute ma vie. Donc, c'est vraiment un film à voir absolument. Puis, bon, c'est sûr que c'est à voir en salle. Là. Je sais pas s'il va rejouer à Montréal. Mais ce film-là, c'est uniquement pour l'expérience là, qu'on
l'écoute. Ouais, c'est ça. Sans dire que c'était ma tasse d'été comme première expérience, je peux dire qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont vraiment marqué. Fait que je suis content d'avoir vu.
Rapidement, les gars, vous avez vu aussi le dernier film de Denis Côté, Ta peau silice, un documentaire où c'est arrangé avec le gars des vues, selon le cinéaste, sur des culturistes, des bodybuilders. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'est un bel objet? Ou est-ce que c'est différent, très en surface, puis il n'y a pas grand-chose derrière le muscle?
Rem?
Moi, je commence. Moi, en fait, je m'attendais à m'embarquer dans quelque chose de lourd. Comme, tu sais, j'ai bien aimé le bestiaire, mais ça reste que ça, pour ce public averti, là, des animaux pendant 1h10, pas de dialogue, pas d'entrevue, pas rien, là, c'est dry. Je m'attendais à tomber là-dedans, mais là, ce qui est le fun, c'est que t'as tout le facteur humain qui est là, t'as 6 personnages vraiment distincts. Ce qui est vraiment trippant, c'est que Denis Côté s'attarde à la vie quotidienne de ces gars-là et non à eux dans un gym. Il disait lui-même on stage après le film, il dit ça m'intéressait pas d'aller vous regarder vous entraîner. T'sais. Les gars, ils insistaient pour ça. Lui, il leur a bien expliqué ce qu'il voulait faire.
Ouais.
C'était vraiment 6 beaux portraits. Puis c'est le fun parce que, oui, là, tout est arrangé parce qu'il a reproduit des moments de leur vie. C'est comme ça qu'ils ont filmé parce qu'il n'y avait pas le temps de faire de l'immersion. Donc, il a reproduit des moments qui se passent vraiment dans leur vie. Mais, tu sais, ça reste que tout ça, ça donne des moments étranges, des plans vraiment parfaits, en fait, sur des moments bizarres. Tu sais, il y en a un plan là, dans la bande-annonce de SNC. C'est le gars qui est en bédaine, tout musclé dans son driveway avec des lunettes de réalité virtuelle. C'est des moments vraiment juste weird. Ça fait un peu Harmony Corinne, là, tu sais, c'est pas trop expliqué plus que ça. C'est juste, t'es avec eux, puis ça, c'est leur quotidien, puis t'es dans leur univers, là. C'est ultra honnête, puis, très, très accessible, en fait. C'est ça qui m'a surpris. Je pensais pas que ça fait aussi le fun à regarder.
Ouais. Tu dis Corinne, mais là, la manière dont tu l'écris, ça fait plus penser à Ulrich Siddle.
C'est un
documentariste. Là.
Ça prendrait Olivier Bouchard aussi pour nous parler de ça.
Ouais, c'est ça. Olivier, c'est un expert. Vas-y.
Non, mais je voulais juste dire que la comparaison à Corinne, des fois, en parlant de Denis Côté, c'est pas fou parce que souvent, c'est ça. Tu sais, t'as des personnages, mettons, tu sais pas trop d'où ils sortent. Ils sont costumés d'une façon, puis sais, on te les présente. On s'entend que c'est un cinéma bien plus sobre, bien moins éclaté, mais je trouve que c'est. Je trouve que c'est vraiment une bonne comparaison pour eux.
Ben, c'est ça. Moi de mon bord, en fait, le modus operandi du cinéaste justifie certains des critiques que j'ai par rapport au film, comme par exemple, moi en fait, que le film fasse juste orbiter autour de protagonistes qui sont au début, effectivement, objectivisés d'une certaine façon, parce que c'est leur corps, puis finalement, l'accumulation, l'acclimatation, le simple fait de passer du temps avec eux, puis de les voir dans plein de sphères de leur vie, interagir avec, tu sais, par exemple, une séance où ils vont se faire masser, une séance où ils vont parler avec leur chum, leur blonde, une séance, amener un personnage va faire une session de photos, tout ça. Donc, tu sais, c'est finalement toutes ces petites bribes-là raboutées dans une mosaïque, les rend paradoxalement donc très, très, très humains. Et effectivement, c'est probablement le film le plus humain de Nicoté, en tout cas, certainement le film le plus humain de Nicoté dans ces genres d'essais documentaires.
J'aurais dit peut-être même.
De quoi, excuse-moi?
Le sœur, c'est pas humain comme film.
Ben, lol. Non, mais c'est ça. Donc, ça, c'est très apprécié. Moi, je t'avoue que, effectivement, donc, le film, disons qu'on le met un peu en trois actes. Au début, on les voit beaucoup en solitaire. Ensuite, on les voit justement dans leurs interactions quotidiennes. Tu sais, comme je disais, on complexifie les rapports avec chum blonde, toutes les gens autour, leur entourage et tout ça. Moi, je trouve que c'est dans ces moments-là que le film brillait vraiment le plus. Et pour moi, le film coule à pic avec la finale la plus complaisante, la plus masturbatoire, la plus...
Oh non!
Ah ouais, moi j'ai détesté... Ben, en tout cas, écoute.
Non, moi, j'allais...
Il y a une finale onirique, métaphorique, où j'ai trouvé que le film, peut-être par manque d'idées ou par sachant pas comment retomber sur ses pieds, créer un grand simulacre, et là j'ai trouvé que Denis Côté répondait à son cinéma, Denis Côté parlait à Denis Côté, il y a vraiment quelque chose, c'est la faute de goût pour moi, il y a vraiment eu un pacte qui s'est rompu avec le dernier 15 minutes. Toi Rémi, ça a l'air de te surprendre que je réagisse comme ça, là. Moi pour moi ça a été vraiment... Ça a été un deal breaker, je t'avoue, parce que j'étais quand même, franchement, fasciné par l'objet, par le film. Puis pour moi, il y a un pacte qui a été rompu à la fin, puis pas pour les bonnes raisons. J'ai trouvé vraiment qu'on faisait du cinéma, on créait de l'artifice, puis on partait avec une idée un peu bête. Puis,
le fait, c'est que ça me rappelle un peu, tu sais, c'est bizarre à faire comme lien, mais ça me rappelle un peu ton long métrage, parce que les derniers moments, c'est du documentaire provoqué, c'est que... Il a créé un contexte où il allait avoir de quoi de weird qui allait se passer. Tu sais, il a comme, tu sais, je peux pas aller trop loin là-dedans, mais tu sais, il a créé une situation où
les
moments à travers ça vont se passer. Puis justement, il y a des moments vraiment étranges à travers ça qui sont pas simulés. Puis il a parlé après le film, il y a des affaires, il y a une scène avec des moutons, là, je vais juste dire ça, là.
Ouais,
c'est vraiment spécial, c'est comme, mais.
J'ai comme trop d'images bizarres, là.
Mais ça se passe, c'est comme, c'est weird, mais tu sais, il l'a dit après, ça s'est passé de même.
Ouais.
Il a provoqué le contexte, mais ce moment-là est juste arrivé dans le contexte qu'il avait provoqué.
C'est une drôle
d'image, là. C'est
spécial. Mais c'est drôle que je m'arrête à ça parce que je la vois, l'idée, puis ça se peut, puis tu sais, on veut créer un objet étrange, on veut assumer, comme je disais, l'onirisme, on veut contrôler les paramètres, on a envie de faire du cinéma, on a envie de faire autre chose, puis clairement Denis Côté réfléchit son cinéma, le Q&A était juste props, là, c'était vraiment un magnifique question-réponse avec les protagonistes, tu sais, les sujets du film qui étaient là, qui avaient quand même chacun vraiment quelque chose à dire, le film les humanise, le film complexifie nos préjugés, déboulonne nos préjugés, mais tout ça, ça l'avait fait. Et puis là, pour moi, c'est pourquoi donc on... Je sais pas, on dirait que pour donner un... Puis je sais que c'est probablement plus noble que ça, mais comment je l'ai perçu en tant que cinéphile, c'est comme si, pour le rendre plus transcendant, on a fait une finale comme ça. Puis moi, vraiment, je me suis senti triché. Comme je disais, je me répète au risque de me répéter, mais là, tout à coup, Denis Côté parlait à... lève le nez puis parle à son public élitiste ou je sais pas, pour moi il y a eu un
comme s'il faisait pas confiance en ces images documentaires puis qu'il sentait le besoin un peu de mettre la mise en scène
ça pour ramasser tout ça dans une œuvre étrange et singulière, puis elle était étrange et singulière avant qu'on ait aussi loin dans le factice et ouais, je sais pas, moi ça m'a beaucoup dérangé. Puis aussi si je peux rabattre ça à quelque chose que j'ai juste ressenti viscéralement, mais ça devenait interminable. C'est comme si le dernier 15 minutes faisait... On dirait qu'à tous les plans, j'avais l'impression, OK, c'est peut-être le dernier plan. Ah, non, ça continue. OK, c'est peut-être la dernière scène. Ouais, ah, non, ouais. Ça continue. Ah, non, ça continue. Ah, puis c'est...
C'est comme si d'avoir aimé ça, genre, la première
fois. Ouais, c'est ça, là. C'est... Mais encore là, c'est super personnel. Je ne le déconseille absolument pas. Hein. Je veux vraiment que vous preniez tout mon ressenti, quand même avec un grain de sel. Il y a beaucoup de belles choses dans le film. Le film ose quand même beaucoup de belles choses. Puis ne serait-ce que juste d'en ressortir un peu obnubilé, on est un peu... C'est comme les personnages restent mystiques et mystérieux, mais c'est beau parce que j'ai l'impression qu'ils transcendent, ils vivent avec nous bien après que le film soit terminé. Donc, juste pour ça, là, allez le voir. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est une finale qui va diviser. Je pense qu'on peut effectivement lui lancer les fleurs pour ça, ou on peut peut-être être comme moi puis se sentir un peu lésé, trahi, triché. Bon, bref. Mais voyez-le.
Mais c'est vraiment un de nos cinéastes les plus intéressants. C'est vraiment quelqu'un. On n'a jamais peur qu'il va donner un sell-out ou qu'il va nous proposer quelque chose de convenu. Il y a toujours des pièges puis des trucs à éviter puis à surmonter dans le cinéma de Denis Côté. Donc,
l'anti-pumping iron, là. C'est vraiment l'anti-pumping iron. C'est exploité complètement au contraire de ce que c'était. Là.
Exact, c'est vrai. Donc, un regard neuf, nouveau.
Pourtant, j'adore Pumping Iron. Donc.
Non, mais les deux films se répondent. C'est comme les deux existent, puis c'est parfait que les deux existent. Non, l'intention derrière le film est clairement noble, clairement humain. Un regard compassion, de curieux, de ça paraît, ça transparaît, c'est contagieux. Ouais, non. Outre la fin, moi j'ai bien aimé ta possibilité, vraiment.
Super, donc on n'aura pas le temps d'aller plus loin. On a encore plusieurs films qu'on a vus, qu'on aimerait discuter, mais le temps file.
Parce que je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais moi, j'ai mentionné un peu tantôt, ça se pourrait que mon film de l'année, c'est ce que j'ai vu hier, puis c'est un de mes gambles au festival. Tu sais, comme je disais, j'en ai choisi deux à l'aveuglette, puis j'étais allé voir Les Garçons Sauvages hier.
Ah, ça a l'air super bon, ça.
C'est hallucinant. Ça, c'est vraiment mon genre de cinéma. Là. C'est aucunement réaliste. Tu pars loin, loin, loin. Là. C'est... comme du Guy Madden, meet Jules Verne, meet Lord of the Flies, là, c'est vraiment hallucinant. Là. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Je suis sorti du film, j'étais, le cœur battait vite, là, j'avais la gueule à terre. Là. Ça m'a vraiment jeté à terre. Puis j'ai l'impression que c'est un film qui va être difficile à rattraper après. Là. Je pense pas qu'il va avoir une très grosse distribution comme un Florida Project, par exemple. Mais il repasse mercredi. Fait que je sais pas si le podcast va être sorti, mais mercredi le 11 à 14h15, le film repasse. Puis, Les Garçons Sauvages, il faut absolument que vous voyez ça. Vous voyez ça au cinéma là, parce que c'est un film, c'est magique. Là. Les images sont magnifiques. Puis, il y a une trame sonore envoûtante là, qui a besoin d'être vue dans une salle de cinéma. Grosse recommandation là.
Écoute,
fait que l'appel est lancé à nos dizaines de milliers d'auditeurs mercredi. On fait un double features, Les Garçons Sauvages, puis juste après Les Faux Tatouages. Merci beaucoup Benjamin Pelletier d'avoir été des nôtres. On continue de te suivre sur pointdevue.net.
Yes.
Toujours des très bons articles que tu nous écris, de très bonnes critiques. Nous c'était notre point de vue. On va aller écouter la bande-annonce des Affamés de Robin Aubert qui va jouer dans les prochains jours du festival. Benjamin et moi, on l'a vu d'ailleurs. On ne peut pas vraiment en parler.
Pascal aussi l'a vu à Toronto.
Oui, moi je l'ai vu à Toronto aussi.
Oui, c'est ça. Donc, on va écouter cette bande-annonce. C'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot et j'étais avec mes collègues.
Rémi Tréchette.
Et Pascal Plante. Et
Benjamin Pelletier.
Si je te dis ce qui va se passer... Et puis tu sauras pas ce que t'arrives.
C'est Jenny pis sa fille, je pense. La petite à la même école que le mien. C'est peut-être elle qui l'a mordu.
Dans l'eau, dans l'air, dans nos gènes, je sais pas. La première affaire, tu vas t'apercevoir. T'es agenouillé sur le plancher de la cuisine, en train de focoyer dans le ventre de la personne qui t'aime le plus.
Ailleurs que ce qui reste.
C'est les premiers survivants que je croise depuis longtemps.
On les voyait de moins en moins dans le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont plus rien à manger.
On est là, puis ils le savent.
De la banque. J'aurais été voir Mickey Mouse comme j'avais promis au petit.